Christophe Girard, habitant, salarié et ex-élu de Seine-Saint-Denis.
Il faut l'allumer.
C'est français.
Non, pas tout à fait français, suisse, russe, et né aux États-Unis. Mais du CGET donc, et anciennement du FASILD, du Fonds d'intégration
de lutte contre
les discriminations, je voulais interroger Patrick sur la période entre 70 et 83. Parce que vous avez dit que c'est à ce moment-là que s'est posée la question de l'assimilation, enfin non plus exactement, de l'intégration. On sait qu'avant 70, et même ça a perduré après, on était dans un modèle de négation, y compris avec les meurtres racistes, enfin toute une période que certains ici ont connue de ratonnades, totalement justifié, qui débouchait comme ça brutissait au tribunal sur des non-lieux. Effectivement, 70, il y a un changement, mais il semblait qu'on restait quand même dans un modèle très assimilationniste. Et que c'est la marche de 83 pour l'égalité des droits qui avait permis ce changement de modèle et de passer sur un modèle plus intégrationniste et de dualité, et donc d'effort de la société, que la société avait à produire vis-à-vis des immigrés. Et donc ça, c'est le point d'interrogation que j'ai. L'autre, c'est une remarque sur la démonstration que vous faites, qu'en fait, l'assimilationnisme vis-à-vis d'une partie des immigrés aujourd'hui est à l'heure, et qu'on reste encore dans la société, d'une façon générale, dans une envie d'assimilationnisme, et que tant que l'immigré arrive à s'invisibiliser quelque part, au terme d'une assimilation,
il n'y a plus de question de son appartenance, de son origine, alors que si ça reste visible, il reste un immigré.
On prend peut-être d'autres questions, allez-y.
Moi, c'est une question de compréhension, j'aimerais que repassiez le slide sur le tableau, encore avant. Voilà, ici. J'ai le sentiment de lire que la génération 2 se sentait moins en appartenance à la société française que la génération d'immigrés. On voit 74, est-ce que on doit le comprendre comme ça? Vous voyez, soit en dessous de votre cercle rouge, là, oui. Est-ce que vous pouvez interpréter ces données? Et dans ce cas-là, ça me semble un signal très inquiétant.
Mmh. D'accord. Dernière question. Enfin, dernière question, mais on en prend trois, puis on répond, puis on en reprendra après. Allez-y.
Bernard Garin, je suis directeur d'hôpital, mais là, je vais essayer de faire l'avocat du diable. J'ai bien aimé tout à l'heure votre message, comme quoi la France était un club très, très sélect, mais qui, de manière perverse, rejetait la faute sur les immigrés. Et donc je partage cet avis. Ceci étant, je trouve que le danger de cette position, c'est celle du relativisme. Je pense qu'on a juste un petit peu abordé la question de la femme. Et bien que la France, comme l'Italie, l'Espagne, soient des cultures machistes comme le Maghreb, je trouve qu'il y a... Comment ?
Comme le reste du monde.
Comme le reste du monde, mais on en parle souvent autour du bassin méditerranéen. Je trouve que, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, la différence n'est pas ténue entre le Maghreb et la France sur le statut de la femme et sur la sexualité plus généralement.
Je réponds, puis on va quelques questions.
Peut-être la question d'information là sur les 74%. Donc ici, la partie droite du tableau concerne en fait ce considéré du pays d'origine d'origine immigrée ou de celui de ses parents. Donc en fait, le 89%, ça veut dire que les secondes générations se considèrent comme français. Répondent oui, tout à fait. Et ici, ils répondent en 74%, oui, tout à fait, je suis attaché au pays de mes parents.
J'avais pas vu qu'il y avait deux questions.
Voilà, c'est ça.
Ça marche pas, ok.
Donc c'est le...
Question réglée.
Sur la l'envie d'assimilationnisme. Alors, les séquences sur... c'est toujours un peu compliqué parce qu'il s'agit souvent de discours plus que de dispositifs d'intervention. Dans les dispositifs d'intervention, vous savez mieux que nous au facile et avant le face, les politiques elles-mêmes étaient toujours un peu ambiguës. C'est-à-dire que l'interculturel était quand même aussi avec une visée d'assimilation malgré tout. Donc il y a eu des moyens qui étaient placés pour essayer de favoriser en définitive la participation par la compréhension des ressources de la société française et essayer de réduire malgré tout l'autonomie de milieux immigrés qui seraient complètement séparés du reste de la société. Donc c'était pas le but de ces dispositifs. Donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution peut-être moins assimilationniste dans les années 60, disons 85-90. Et puis après, il y a eu des retours. Donc on est dans des va-et-vient sur ces questions-là. Et ce qu'on peut dire, c'est depuis le débat sur l'identité nationale de 2009, on est dans une version plus rigide, en quelque sorte, de l'identité nationale et moins ouverte à l'égard de la diversité des expressions, considérant que cette diversité met à mal la cohésion collective. Et je pense que c'est un peu ça, les données du problème. Voilà.
Mais après, pas aussi que la montée du Front National a modifié le regard sur ces questions.
Alors oui, au départ, c'est très net que le Front National a donné le là sur la question. Moi, j'ai le souvenir d'un débat, je pense qu'on devrait le repasser, parce qu'il doit être dans les archives de l'INA, et je vous invite tous à voir, moi j'étais jeune à l'époque quand je l'ai vu. C'était un dossier de l'écran, je sais pas pourquoi cette soirée-là, c'était pas un film, c'était un documentaire. Et c'était un documentaire sur la Grande Borne et la laverie de la Grande Borne, une espèce de truc un peu le mélange de tous autour de la laverie, quand on lave son linge, et puis les gens qui discutent, les mères de famille africaines, les familles populaires françaises, famille arabe, enfin bref quoi, il y avait une mise en scène comme ça, et après il y avait un débat, et dans le débat il y avait un jeune député qui était Julien Drey, et il y avait un autre député un peu moins jeune qui était Jean-Yves Le Gallou, Front National. Et donc on les voit discuter tous les deux, et Le Gallou qui est assez fort en rhétorique, Drey faisait des grandes sorties multiculturalistes, très, très, très ouvertes et très sympathiques, et Le Gallou le regarde et lui fait « mais en fait vous, votre France, là, c'est pas la mienne. En fait moi j'ai pas du tout envie de vivre là-dedans, quoi. Ça ne m'intéresse pas. » Et en fait, on a senti le discours du Front National qui était un discours assez malin, parce qu'il ne disait pas « je suis raciste, j'aime pas les Noirs ». Il disait « mais en fait, ce type de société multiculturelle que vous appelez vos vœux, ce n'est pas la mienne. Moi, je n'ai pas envie de vivre là-dedans. » Et Drey n'arrivait pas à répondre à ça. En fait, il était un peu démuni, il était en train de danser un pied sur l'autre. Et je pense que ce serait très intéressant de revoir ce débat à distance, je pense que ça devait être 85 par là, de le revoir à distance pour se rendre compte de, ou peut-être un peu plus tard, peut-être 88, en tout cas de la façon dont, en réalité, la réponse au Front National à l'époque n'a pas été de fournir un contre-modèle, de dire « non, en fait, tous vos discours sur les difficultés de cohabitation, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'a commencé le Front National, c'est « à Marseille, on n'est plus chez nous ». Et donc, les Blancs s'en vont, ils quittent le quartier, c'est insupportable, on ne peut plus vivre ensemble ici. Et face à ce discours-là, la réponse a été plutôt de dire « mais non, en fait, ce n'est pas ça le problème ».
Et du coup, est-ce que le slogan qui a été porté par les intellectuels de l'époque, ou les leaders d'opinion que vous cherchez, « ne touche pas à mon pote », qui est apparu dans les années justement 80-90, est-ce que finalement ça a été un facteur, c'est la question que vous me posez, c'est un facteur d'intégration finalement, un facteur de clivage, puisque dans ce que vous êtes en train de dire par rapport au discours du Front National qui disait ben, moi c'est pas la France dans laquelle je vis, mais quel modèle finalement, quel modèle et quelle réponse on va construire. Et hier on avait le même débat, de dire ce matin, quelle est finalement la réponse qu'on apporte aujourd'hui à des mouvements très identitaires, si vous l'appelez comme ça.
Ah oui, je pense que l'occasion manquée dans les années 80 a été de mettre en sens les transformations de la société française. Le politique, son rôle, c'est d'éclairer. C'est d'éclairer et de donner des perspectives. Et donc à cette époque-là, ça aurait été d'éclairer et de donner des perspectives en disant « n'ayons pas peur, les changements sont en cours, il n'y a pas lieu, en tout cas, d'avoir un discours positif et concret sur ce qu'impliquaient les transformations de la société française et de tracer la voie. Or, au lieu de ça, il y a eu un contre-discours en disant on ne va pas laisser la nation être nationale, on va pas en rabattre sur cette dimension d'identité, et n'a pas préparé en réalité à ces transformations qui étaient déjà à l'œuvre. Et donc a laissé en suspens en réalité la mise en sens de, à mon sens, de ce que étaient ces transformations.
Oui, mais parce qu'on leur a laissé le principe d'autorité, comme quoi avant c'était comme ça. Et qu'au fond, ce qu'ils voulaient, c'est que ça ne change pas. Alors, oui. Moi, ce que tu démontres, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Donc, effectivement, il ne faut pas laisser le principe d'autorité au Front National qui ferait croire qu'avant, on était très bien entre nous et que du coup, ça marchait super bien. Là, tu me dis que dans les années 30, c'était tout à fait l'inverse. Et on pourrait remonter avant, parce que bon, déjà, on a dit la fin du 19e, etc. Et la France est une société multiculturelle presque plus forte avant que maintenant. Y compris que l'écart culturel entre un jeune du Massif Central et un jeune de Neuilly en 1930 est très supérieur entre un jeune de banlieue et un jeune bourgeois aujourd'hui. Pas la même télé, la même radio, etc. Donc je veux dire, c'est plutôt qu'on leur a laissé le principe d'autorité, on leur a pas dit, cette France que vous dites n'a jamais existé comme ça. Et quand Sarkozy tire les Gaulois jusqu'à aujourd'hui, on dirait quasiment que ça a toujours été ce qui est faux. Donc si tu veux, je pense qu'on a trop dit, non mais nous on est pour la diversité, on ne touche pas à mon pote, c'est sympa qu'il y ait des filles noires qui dansent avec nous et tout, et on n'a pas effectivement dit, mais non, cette société moniste, en fait, n'a jamais existé. Donc votre mythe, c'est un mythe total, vous n'incarnez pas le passé contre nous qui sommes les défiants du futur, ce passé n'existe pas. Il y avait une question.
J'ai pas abordé sur la question du relativisme et sur la question du... du statut des femmes et le rapport à la sexualité. Oui, il y a énormément de questions qui sont ouvertes sur ces dimensions. Je dirais, il faut pas exemplariser les populations originaires du Maghreb comme étant les plus inégalitaires en matière de relations ou de place des femmes dans la famille, parce que par ailleurs, il y a aussi beaucoup de familles françaises dans lesquelles ça se passe pas très bien non plus. Et je pense que c'est un enjeu plus général. Par contre, ce qui serait complètement stupide, et je pense que c'est ça la caricature qu'on a fait du multiculturalisme, ce serait de dire oui, alors il y a des traitements inégalitaires des femmes qui sont acceptables parce que c'est des questions de culture et ça on n'a rien à dire dessus. Alors ça c'est pas vrai, ça ne s'est jamais produit et ça n'est pas un bon argument. Il est hors de question de penser qu'une culture est valide parce qu'elle est différente et donc elle va réserver des statuts subalternes à quiconque ou alors même faire des traitements dégradant, et donc ça, on n'a rien à dire dessus parce que c'est une culture. Donc ça, c'est complètement stupide. Mais je pense pas que dans le droit et dans les discours français, ça ne se soit jamais produit. On dit que c'est ça qui se passe, mais ça se passe pas plus que ça, non plus au Canada, qui est un pays authentiquement multiculturaliste, et qui ne fait absolument pas ça. Enfin, je veux dire, il est hors de question qu'une femme soit maltraitée au Canada sous prétexte qu'elle est sikh ou elle est éthiopienne, et que du coup, on a le droit de faire l'infibulation au Canada. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde de penser une chose pareille.
Dernier jeu de questions, allez-y.
Oui, Yann Bessouz de Dunkerque. Vous avez, dans votre exposé, en retraçant la difficile intégration successive d'immigration en France, il y a une chose qui m'a marqué, quand vous avez parlé de l'immédiate après-guerre, il y avait aussi la fragmentation du corps syndical. Or, moi, il me semble avoir lu régulièrement que la solidarité de classe ouvrière a eu un rôle important de solidarité et donc d'intégration dans un contexte de développement industriel. Je suis originaire du sud de la France, moi je l'ai vécu dans ce contexte avec beaucoup moins d'industrie et beaucoup de solidarité agricole. Je l'ai vécu, une histoire familiale qui en témoigne très directement, et avec les immigrations successives, italiennes, espagnoles, politiques, maghrébines ou autres. Et donc je voulais savoir si c'était un élément dont on trouvait la trace, et est-ce que c'était un facteur objectif d'intégration que cette convergence entre une dynamique économique et un besoin économique de main-d'œuvre, et aussi une solidarité de classe qui avait un sens politique extrêmement fort à l'époque.
Madame.
Marion Alfaro, Port de Paris. Juste une question, quelle est la place de l'école dans ce mécanisme d'intégration? moi j'ai le sentiment, je ne sais rien, c'est peut-être juste une idée préconçue, qu'elle a fonctionné pour la deuxième génération de ces immigrations espagnoles, italiennes, etc., que vous avez évoquées, mais qu'aujourd'hui, elle n'a pas fonctionné pour la deuxième génération d'immigration des années plutôt 60-70. Est-ce que c'est juste c'est un sentiment que j'ai, est-ce que c'est confirmé, enfin quelle était la place dans le mécanisme?
Parfait, merci. Dernière question.
Il y en avait une
là-bas, allez-y, et puis à droite, c'est ça.
Sylvie Donnet-Rousseau, Caisse des dépôts. Dans un contexte de tension des finances publiques, il y a un autre sujet qui peut fâcher, c'est celui des allocations de chômage familial. Est-ce que, mythe ou réalité, est-ce qu'on a des statistiques sur le sujet?
En gros, est-ce que les immigrés n'ont plus de pognon? C'est ça?
Exactement.
D'accord. Mais c'est une excellente question. Oui. Voilà, madame, vous serez la dernière. Donc.
Clotilde Terrible, canalisateur de France. J'ai bien compris, vous avez fait un constat que la société française donc manquait d'ouverture vis-à-vis, en tout cas, des immigrés d'origine africaine, au sens large. On voit bien que c'est un constat. Le club est fermé, ou en tout cas, il reproche aux autres de ne pas rentrer dedans, mais il le ferme. Ça, c'est le constat. Et alors, quelle est la solution? Parce que. Alors, c'est un peu large comme question, mais peut-être qu'il y a d'autres exemples dans d'autres pays où la solution pourrait être. En tout cas, un premier exemple de solution pourrait être apporté.
Merci beaucoup, madame. À toi de nous apporter l'espoir et la solution.
Oui, bien sûr. C'était pas hier le débat sur la primaire.
C'est pour ça que la minute est dit.
C'est pour ça que la minute est dit. Chers concitoyens. Oui, la solidarité de classe est un vecteur d'intégration extrêmement puissant, indéniablement. Ce que j'ai indiqué, c'est pas l'absence de solidarité de classe, c'est pour dire que les institutions elles-mêmes de la classe ouvrière n'étaient pas nécessairement ouvertes complètement. En tout cas, il y avait des segmentations par origine qui pouvaient se manifester, et ça n'a pas empêché cette solidarité. Donc c'est juste pour dire le contraire, c'est pas un reproche d'ailleurs. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait des sections yiddish dans les syndicats de casse-côtiers ou du textile dans l'entre-deux-guerres. Je pense que c'est un endroit où il s'est fait beaucoup de choses politiques et très utiles à tout le monde. Simplement, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on ait ce discours négatif, comme si, quand deux Algériens se retrouvent, ça y est, déjà, c'est fini, c'est communautarisme, c'est affreux. Bon, faut se calmer, c'est pas très grave. La société aussi est faite de ces moments où on se rassemble et on s'assemble parfois par affinité, et dans lequel l'origine peut être aussi une forme d'affinité qui n'est pas contradictoire avec le fait de s'intéresser aux autres également. Donc oui, vous avez raison, la solidarité de classe, c'est une des dynamiques de participation à la société, et c'est évident que l'affaiblissement de cette solidarité de classe joue un rôle important dans les formes d'anomie qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est indéniable. Mais ça serait un projet qui dépasserait très largement notre débat, parce que ça ne se décide pas tout seul, ce genre de choses. Alors la place de l'école, déterminante, vous avez tout à fait raison de le soulever. Alors, je ne l'ai pas évoqué ici. C'est compliqué de regarder le rôle de l'école, parce que ça joue sur deux aspects. C'est l'endroit où on est socialisé, évidemment. Donc là, c'est quand même l'endroit, la grande centrifugeuse pour tout le monde. Et puis c'est l'endroit où on obtient des crédits, c'est-à-dire que c'est l'endroit où on obtient la qualification, donc c'est un passeport aussi pour le reste de l'avenir. On retrouve qu'avec les discriminations, le problème, c'est que le rendement des diplômes obtenus par les élèves d'origine maghrébine et africaine est moins bon que pour les autres. Et donc ça, c'est quand même un peu un problème, c'est-à-dire que même si l'école fait le job de porter des élèves indépendamment de leur origine dans des niveaux de qualification et des compétences certifiées par les diplômes, ça ne veut pas dire que sur le marché du travail, ils vont avoir cette valeur-là. Et ça, la démonétisation d'un certain type de diplôme, y compris parce que les stages sont moins bons, y compris parce que la reconnaissance par le corps professionnel est moins bonne, c'est un sujet hyper important, parce que pour nous, enseignants, je dis ça parce que ça m'arrive aussi d'enseigner, c'est terrible de voir des promotions entières d'étudiants dans lesquelles il va y avoir les deux Arabes qui vont me dire « Bon, bah moi, je ne trouve pas de stage. Je vais te trouver un stage un peu protégé quelque part, sauf que je sais bien que tu ne fais pas à Vivendi dans le staff supérieur, et que du coup, ton CV sur ce stage-là, il vaut trois fois moins que ton voisin d'à côté qui a fait le super stage avec une équipe de haute volée. Bon. Donc l'école, de ce point de vue-là, joue son rôle, mais pas suffisamment. Et par ailleurs, il y a d'autres soucis qui est que l'école, et là c'est le modèle républicain qui est mis en question fondamentalement à travers l'école, n'arrive pas à réfléchir. Il y a des pratiques individuelles énormes de la part des enseignants, mais elle n'arrive pas à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire d'être en milieu multiculturel. Il y a une très grande difficulté à affronter la question, et donc ça se solde souvent par un peu des généralités, et on voit des enseignants en difficulté dans des classes multiculturelles, parce qu'ils ne peuvent pas, alors à part pour les élèves de non francophones, dans lesquels il y a des dispositifs spécifiques dédiés, mais ce n'est pas ça dont on parle du reste. Et on peut dire c'est bien d'ignorer l'origine des élèves, parce que du coup on traite tout le monde pareil. Oui et non, parce que de fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Les disciplines sont plus dures pour les élèves, par exemple. Les garçons d'origine maghrébine sont plus souvent sanctionnés. Ils sont peut-être plus embêtants aussi, hein, mais bon, ça n'empêche qu'il se passe quelque chose, là. Et c'est important de l'affronter. Et à mon sens, il y a un corps professionnel qui ne réfléchit pas suffisamment sur ces questions-là. En tout cas, on a fait des travaux sur les formations dans les SP maintenant. Des enseignants, et c'est quasiment un non-dit, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout abordé. Alors là, moi, ça me pose problème, parce que leur première affectation, c'est la Seine-Saint-Denis. Et ce qu'ils vont voir dans leur vie quotidienne, c'est que ça.
Est-ce donc, que c'est pas aussi vrai dans la sélection des enseignants, quand même? Parce que, est-ce que les enseignants sont un peu à l'image de la société?
De plus en plus, je pense.
Tu crois vraiment?
Ouais, je pense. Je pense. En tout cas, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais je pense de plus en plus.
Moi, je sais pas, ça mériterait d'être vérifié.
Quoi. En tout cas, bon...
Ça a été
notamment réalisé sur
le vote,
Laurence Thierry à la poste, sur le vote des fonctionnaires. Et justement,
le fait que bascule à droite. Oui, des enseignants. Ouais. Les allocations chômage, alors c'est toujours très compliqué de calculer parce que c'est pas des jeux à somme nulle, toutes ces choses-là. Évidemment, structurellement, quand on est une population. Plutôt modeste, avec le taux de chômage que j'ai montré, par construction, on touche plus souvent les allocations que quand on n'a pas ces difficultés-là. Ceci dit, quand on fait les comptes, pour être en très court, quand on fait les comptes des contributions et des droits sociaux, allocations reçues par les immigrés, on est plutôt dans une balance positive, c'est-à-dire que les immigrés coûtent moins qu'ils ne leur rapportent, parce que par ailleurs, les retraites. Qui concerne quand même un gros poste des redistributions, les retraites sont moins souvent perçues, compte tenu de leur structure par âge, par les immigrés. Donc on dit que c'est peut-être un artefact de structure par âge, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les immigrés contribuent plus qu'ils ne reçoivent.
Pour les communes, c'est pas dommage, parce qu'ils vieillissent.
Ah bah après, oui, mais enfin, les immigrés ont une tendance à s'évaporer un peu par le haut et à se remplir par le bas. Donc, si tu veux, c'est une population qui a une évolution... Non, c'est-à-dire qu'ils repartent au pays d'origine en partie ici, et donc ils ne touchent pas toujours leur retraite à temps plein. Mais bon, on peut penser qu'ils vont commencer à... Et pour terminer, quelle est la solution? Évidemment, c'est parfait. Je crois qu'il y a... en fait, il n'y a pas de singularité, il n'y a plus de singularité française dans le concert européen. C'est-à-dire que ce qu'on a pu conserver. D'ailleurs, même la Grande-Bretagne, qui était plutôt un pays ouvert et multiculturel, vous avez vu l'évolution, le Brexit a mis en scène complètement un discours très xénophobe, très fermé. Donc, en fait, en réalité, ils sont aussi pires que nous, d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. On peut dire autant des Pays-Bas, qui ont été pendant longtemps un pays qu'on a qualifié de multiculturaliste, mais qui sont dans une version assimilationniste encore plus dure que la France. Dans les années 80, l'Allemagne est sur cette traîne-là, même s'ils accueillent beaucoup de réfugiés. Quand même, l'idée générale, c'est que l'identité allemande, c'est pas quand même quelque chose de très très, très malléable. Hein. On est quand même plutôt dans des sociétés européennes qui n'ont pas fait le pas. Les sociétés scandinaves aussi, qui étaient apparemment très ouvertes, ça allait bien tant que les Afghans, les Somaliens étaient des pauvres réfugiés qu'on accueillait, mais là maintenant qu'ils sont devenus des jeunes qui sont nés en Suède et qui partent suédois, eux m'attendaient des Noirs, c'est pas tellement des Suédois, enfin, il faut pas exagérer, c'est pas exactement ça la Suède. Donc vous voyez que monter le parti des vrais Suédois qui fait quand même 20%, hein, et donc on a exactement les mêmes coefficients, c'est-à-dire qu'en fait, être suédois, c'est être bon aux yeux bleus, quoi. Et cette idée-là qui se cristallise sur un type de type ethno-racial et un type national, eh bien, ça traverse au centre de l'Europe. Donc ça, c'est pas très positif. Il n'y a pas tellement de good practice de ce côté-là. Le vrai beau pays, c'est le Canada. En fait, le pays qui a vraiment fait sa mue, c'est le Canada. Et c'est très compliqué d'expliquer. En fait, il y a une raison pour laquelle le Canada est devenu très ouvert. C'est pas parce que les Canadiens sont plus sympas que les autres. Ce serait une bonne raison, mais c'est pas vraiment le cas. C'est parce qu'en fait, ils étaient tellement empêtrés dans le clivage linguistique franco-britannique que finalement, le multiculturalisme, c'était ce qu'il y avait de moins dangereux comme type de progression dans l'idée nationale. Donc en fait, comme il n'y a pas d'idée nationale homogène et qu'il y avait un clivage interne, les francophones se considérant comme étant les nègres de l'Amérique quand même, hein, avec un mouvement indépendantiste qui a mis des bombes et qui a été assez loin dans la revendication de l'indépendance, se raccommoder autour du multiculturalisme, c'était une bonne solution. Aujourd'hui, tous les sondages d'opinion sont incroyablement positifs au Canada. C'est le dernier pays qui dit bah, « nous, on veut bien accueillir les immigrants ». C'est le seul pays dans le monde qui a dit ça. Donc, c'est pas complètement faux, et c'est vrai qu'il y a des structures, le Québécois pur laine, bon d'accord, ok, ça existe, et c'est vrai que le Québec est peut-être un peu moins ouvert que le reste du Canada, mais ça reste des pays, et c'est parce que c'est un pays qui est fondamentalement sous-peuplé. C'est-à-dire que le mythe du peuplement reste très fort, c'est-à-dire qu'on a besoin des gens, parce que les 4/5 du centre du Canada, c'est vide. Et donc, il va falloir... Donc on est encore dans le mythe de la frontière.